Radio Okapi.
Le journal Belinda Bosuma.
La cité de Kanyabayonga au Nord Kivu, quasiment vidée de ses habitants, situation consécutive à l'occupation de cette entité par le M23 depuis hier après-midi. Entre-temps, la situation sécuritaire dans le sud de Lubero reste confuse, reconnaît l'administrateur de ce territoire. Adoption hier au Sénat du projet de règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Ce texte a été voté à l'unanimité. Plusieurs innovations y sont introduites. C'est notamment l'obligation aux sénateurs à vie de participer aux travaux en commission. Et puis, monkeypox ou variole de singe déclarée dans le Nord Kivu risque d'affecter l'Ituri voisin. Crainte exprimée par la population de l'Ituri. Pour en parler, nous recevons Marcel Lola, chef de division provinciale de la santé en Ituri. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du territoire de Lubero, Nord Kivu. Ici, au lendemain de la prise de la commune rurale de Kanyabayonga par les rebelles du M23, la cité s'est presque vidée de ses habitants, selon la société civile locale et l'administrateur du territoire de Lubero, qui confirme l'information. Entre 5 et 10% seulement des habitants y vivent encore. L'autorité territoriale appelle au calme. Guylaine Kassassia nous fait le point.
Au lendemain de la chute de la commune de Kanyabayonga aux mains des rebelles du M23, la situation sécuritaire dans le sud du territoire de Lubero reste confuse, reconnaît le colonel Alec Uewa, l'administrateur des territoires.
La situation sécuritaire est extrêmement inquiétante dans le sud de Lubero. Au moment où nous sommes en train d'échanger, il y a tout un afflux de déplacés vers les zones plus sécurisées, en provenance de Kanyabayonga, de Miriki, en provenance également de Luofomo. Au moment où nous parlons, la commune rurale de Kaina et de Kirumba est vraiment saturée par les déplacés de guerre. Certains même traversent pour venir vers Butembo. La population qui est restée à Kanyabayonga, je peux estimer à 10%.
Un double calvaire pour la population locale et surtout les personnes déplacées venues de Rutshuru et qui vivaient déjà à Kanyabayonga, comme l'explique Gervais Balikwisha, déplacé de guerre.
Nous traversons un moment difficile de notre vie. On fuit chaque jour. Actuellement, nous sommes avec une grande population. Jusqu'où nous allons nous arrêter? On manque à qui donner notre espoir.
Déjà jeudi, les rebelles du M23 avaient récupéré les localités de Miriki, Kimaka et depuis vendredi soir, la localité de Luofu et la commune de Kanyabayonga. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Par ailleurs, 24 heures après l'occupation de la cité stratégique de Kanyabayonga, plaque tournante entre les territoires de Rutshuru et Lubero, les autorités du Nord Kivu promettent de s'exprimer dans les heures qui suivent pour fixer l'opinion. Pendant ce temps, même si aucun incident n'a été rapporté sur le théâtre des opérations en ces trois derniers jours, la situation reste tout de même imprévisible sur le front. Reportage de Gabriel Wamenia, rendu par Alain Rungmushinj.
La cité de Kanyabayonga, située à la limite entre les territoires de Rutshuru, un peu au sud, et le territoire de Lubero, un peu au nord, sur la nationale numéro 2, est sous occupation des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise depuis hier vendredi. Bien que l'information soit confirmée par plusieurs acteurs et organisations non gouvernementales dans la région de Kanyabayonga, à l'heure qu'il est, ni les autorités, ni militaires de la province ne se sont toujours pas exprimés. À Goma, le porte-parole militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, que nous avons contacté ce matin, promet de donner la version des autorités provinciales dans les heures qui suivent sans plus. Pendant ce temps, sur le front sud, aucun incident n'a été rapporté sur les théâtres des opérations depuis trois jours maintenant. À Sake, ainsi que sur d'autres lignes de front, la situation reste relativement calme mais imprévisible, selon plusieurs sources contactées dans le territoire de Massissi.
Entre-temps, la coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri s'est dit préoccupée par l'occupation de la commune rurale de Kanyabayonga dans le nord qui vous parle le M23. Dans une communication ce samedi à la presse à Bunia, cette structure dit craindre que cette progression des rebelles entraîne le déplacement massif de la population du nord qui vous vers l'Ituri pour s'ajouter à plus d'un million d'autres déplacés que compte actuellement l'Ituri. Cela va créer aussi une confusion à la suite de la présence des groupes armés locaux actifs. Le président de la société civile Force Vive de l'Ituri appelle l'État congolais à prendre cette question au sérieux pour barrer la route au M23 avec leurs alliés. Dieudonné Lossa le dit à Martial Kizabiamungu.
Nous, comme province de l'Ituri, la peur que nous avons, c'est que le nombre de déplacés de l'Ituri d'abord, qui est plus de 2 millions aujourd'hui, sera augmenté avec ceux-là qui vont fuir du Nord Kivu, cherchera à venir se cacher en Ituri. Et déjà, la situation en Ituri sera très confuse parce que sur le territoire, il y a plusieurs groupes armés locaux, mais aussi il y a RDF qui continue à être opérationnel dans la province de l'Ituri. Nous imaginons que lorsque ces mouvements avanceraient vers un Beni, vers Butembo Beni, je pense que l'État congolais à ce moment-là doit revoir sa stratégie parce que on ne cesse pas expliquer qu'est-ce qui est à la base des replis quotidiens de nos forces armées.
Je vous le disais en titre, adoption hier du projet de règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Le président du bureau provisoire du Sénat a soumis ce projet de règlement intérieur à la plénière pour le débat. Après l'intervention de 9 sénateurs, ce texte a été voté à l'unanimité. Plusieurs innovations y sont introduites, notamment l'obligation aux sénateurs à vie de participer aux travaux en commission. Michel Kefindangoy.
Parmi les innovations apportées, explique Christophe Lutundula, président de la commission spéciale portant élaboration du règlement intérieur, il y a notamment la modification de la loi portant statut de l'ancien président de la République. La commission propose qu'au-delà des avantages lui accordés, les sénateurs à vie soient soumis à des obligations, entre autres la participation aux travaux de toutes les commissions du Sénat. Toutefois, souligne le nouveau règlement, les sénateurs à vie ont l'obligation de sauvegarder à tout instant l'honneur et la dignité de son statut ainsi que l'image de marque du Sénat. Il est soumis à toutes les incompatibilités prévues par l'article 108 de la Constitution, mais peut exercer les fonctions rémunérées conférées par un organisme international dont la RDC est membre, ajoute les rapports de la commission spéciale. Le nouveau règlement intérieur suggère également que l'accès au Parlement soit subordonné au port d'un badge en vue de sauvegarder la sacralité de cette institution.
Et au cours de cette même plénière, présidée par Pascal Kindoué, le président du bureau d'âge, le rapporteur Ivan Kazadi a communiqué les noms des élus qui ont choisi de rester au Sénat et de ceux qui ont opté pour d'autres fonctions officielles. Et puis, financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, en a fait le point au cours du 3e conseil des ministres du gouvernement souminois de vendredi 28 juin. Une sollicitation de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui tombe à point nommé pour sauver la compagnie nationale d'aviation Congo Airways. Le point avec Jacques-Yves Molima.
C'est conformément à l'instruction du chef de l'État que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a sollicité du gouvernement ce plan d'urgence. Il s'agit des fonds nécessaires prévus pour permettre à cette compagnie nationale de renforcer sa capacité opérationnelle n'ayant pas encore été libérée. En fait, depuis un certain temps, la compagnie congolaise d'aviation Congo Airways ne dispose plus que d'un seul aéronef qu'elle exploite en leasing et dont le contrat expire dans les jours qui viennent. Une situation qui fait courir un risque énorme à l'entreprise. En fait, Congo Airways pourrait perdre son certificat de transporteur aérien et son agrément si, au 16 septembre 2024 prochain, elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en République démocratique du Congo. D'où des mesures urgentes relatives notamment à la mise à disposition des fonds et la gestion des différents contentieux devaient être préconisées, ainsi a souligné le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya dans son compte rendu. Rappelons que c'est au cours du 111e Conseil des ministres du 15 septembre 2023 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait instruit le gouvernement de se pencher sur la question du financement du plan d'urgence de relance des activités des Congo Airways.
Dans l'actualité aussi, le gouvernement provincial du Sud qui vous publiez hier a été également investi au cours de la plénière tenue hier même à l'Assemblée provinciale à Bukavu. À cette occasion, le chef de l'exécutif provincial, Jean-Jacques Pouroussi, a étalé le plan de travail de son gouvernement. Jean Kassami nous en parle.
Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi s'est fixé 5 objectifs à réaliser pendant son mandat de 5 ans. Ainsi, il s'engage à instaurer une gouvernance transparente, améliorer l'accès aux services sociaux de base, revitaliser les réseaux provinciaux des infrastructures et enfin renforcer le mode de vie de la population du Sud Kivu. le chef du gouvernement annonce qu'il est déterminé à pousser son équipe au travail en vue de mobiliser 5 millions de dollars mensuellement. D'après lui, les erreurs du passé dans la gouvernance par tâtonnement appartiennent désormais à l'histoire. Par la même occasion, Jean-Jacques Pourroussi annonce la restructuration de la direction provinciale de mobilisation des recettes DPMR. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Direction la province du Maniema. Une grande délégation mixte au gouvernement congolais FIDA séjourne à Kindu depuis jeudi dernier. Dans une interview accordée à Radio Kapi hier dans la soirée, Madame Rebecca Lukusa, analyste au bureau pays de FIDA, fait savoir que cette mission d'une dizaine de jours vise à se rendre compte de l'état d'avancement des activités du projet PADRIR, entendez, programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. Rebecca Lukusa explique au micro de Florence Kizalunga.
Bon, c'est pas la première fois que cette délégation vient à Maniema à Kindu. C'est dans le cadre de la supervision du projet PADRIR qui est cofinancé par le FIDA et le gouvernement congolais ainsi que d'autres partenaires cofinanceurs. C'est une mission de supervision d'une durée d'une dizaine de jours sûrement. On aura l'opportunité d'échanger avec toutes les parties prenantes clés impliquées dans la mise en œuvre du projet et principalement les autorités provinciales, le service technique de l'administration ainsi que le bénéficiaire. On va échanger aussi avec les bénéficiaires des activités du projet PADRIR. En fait, l'objectif de la mission, en fait, c'est de venir apprécier son état d'avancement, s'assurer que les objectifs qui lui sont assignés sont en voie d'atteinte, mais aussi une opportunité pour nous de voir s'il y a de recommandations particulières à formuler allant dans le sens d'amélioration des actions du projet.
Province de la Tchopo, le bâtonnier du barreau de cette juridiction appelle les avocats inscrits sur la liste et ceux qui y seront bientôt à l'intégrité et à l'abnégation dans l'exercice de leur métier. Maître Jean-Aubin Akamba leur a lancé cet appel hier à la clôture d'un atelier d'une semaine organisé à Kisangani. Le compte-rendu de Jacques Moukonkole.
Au total, 180 jeunes avocats ont pris part à cet atelier axé principalement sur le comportement que doit afficher un avocat face au justiciable. Maître Jean-Aubin Akambalisoba, bâtonnier au barreau de la Tchopo, les appelle à l'observance des devoirs et d'interdits.
Un avocat ne peut pas faire le commerce, ne peut pas plaider les affaires des membres de sa famille. Un avocat ne peut pas être un fonctionnaire de l'État. Un avocat doit être digne. Un avocat doit être humaniste. L'avocat doit être courtois, élégant. Il y a autant de devoirs qui leur sont prescrits.
Satisfait de cette information, les participants déclarent être suffisamment outillés. Maître Christian Kambi, avocat sur la liste de stage.
L'avocat, c'est d'abord par rapport à sa prestation. Pour nous, avocats, l'ennemi numéro un d'un avocat, c'est son client. Donc nous devons savoir toujours comment nous comporter vis-à-vis d'un client, par rapport à son dossier, comment nous devons prester, pour permettre que nous, dans les jours à venir, qu'il n'y ait pas beaucoup plus de conflits entre l'avocat et son client.
Le barreau de la Tchopo promet d'organiser chaque année 2 à 3 séances de remise à niveau sur la déontologie professionnelle. Ceci pour éviter que ses membres ne tombent dans la déviance. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Après 14 mois de conflit, la situation ne cesse d'empirer au Soudan, ce alors que le risque de famine s'intensifie. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Les experts internationaux se montrent pessimistes quant à l'avenir du Soudan, déchiré par la guerre. Dans un récent rapport, le Programme alimentaire mondial PAM annonce que 755 000 personnes seront menacées de famine dans les mois à venir. Pendant ce temps, le risque de malnutrition continue d'augmenter chez les enfants. Le PAM indique également que 8,5 millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires extrêmes après 14 mois de conflits dans le Soudan.
L'invité.
La maladie de monkeypox, dit variole de singe, déclarée dans 3 zones de santé de la province du Nord Kivu, risque d'affecter la population de l'Ituri voisine. Mais quelles sont les mesures déjà prises pour empêcher la propagation de cette maladie dans cette province et les règles d'hygiène à observer par la population pour la prévention? Réponse avec notre invité, Marcel Lola, chef de division provinciale de la santé en Ituri. Il s'entretient avec Martial Kizabiamungu.
Monsieur Marcel Lola, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
C'est quoi la maladie monkeypox dit variole des singes?
Avec l'évolution, on a découvert que l'origine de ce virus, c'est-à-dire le réservoir, n'est pas que le singe. Il y a d'autres animaux en plus des singes. Vous voyez, le monkeypox, c'est en lien avec les singes. Il y a d'autres aussi réservoirs connus en dehors des singes. C'est comme ça qu'il y a eu cette évolution de monkeypox vers mpox. Ça veut dire que mpox, c'est une maladie virale. Donc, l'agent causal, c'est un virus. Un virus qui a les réservoirs, essentiellement les rongeurs. Mais à côté des rongeurs, et comme on l'a dit, il y a aussi les singes. C'est une maladie qui est très contagieuse, à potentiel vraiment épidémique. Cliniquement, il se manifeste par une fièvre éruptive. C'est parmi les diagnostics différentiels de maladies qui sont mis dans ce qu'on appelle la fièvre éruptive. Donc avec la survenue brutale des fièvres à température très élevée, accompagnée des éruptions cutanées avec plusieurs lésions qui peuvent coexister à la fois, mais avec une prédominance de ce qu'on appelle les pustules. C'est-à-dire ce sont des boutons qui contiennent des pus là-dedans, qui vont évoluer vers l'assèchement, donc devenir des croûtes qui touchent pratiquement tous les corps humains. Mais la particularité de monkeypox, c'est que ça touche même les plantes des pieds et les paumes des mains. Donc à côté de ça, il y a d'autres signes, notamment le gonflement des ganglions, la douleur à la gorge, l'ulcère dans la bouche, les yeux deviennent rouges, parfois la toux, la diarrhée, les vomissements. Donc c'est un tableau clinique très riche.
Alors, cette maladie a été déclarée au Nord Kivu avec 8 cas signalés dans 3 zones de santé. L'Ituri, province voisine avec le Nord Kivu, n'est pas épargné par cette maladie. À votre niveau, quelles sont des mesures déjà prises ou en cours d'être prises pour empêcher que cette maladie se propage à l'Ituri également?
Bon, d'abord, le monkeypox, c'est parmi les maladies prioritaires sous surveillance en RDC. Donc, l'Ituri, à travers la division professionnelle de la santé, n'est pas à marge de cela. Donc, c'est parmi les maladies que nous surveillons régulièrement et c'est à déclaration d'ailleurs obligatoire. Au-delà des cas qui sont déjà connus, l'Ituri, nous avons déjà notifié dans la surveillance de routine 2 cas suspects pour lesquels il y a eu des investigations qui ont abouti à des prélèvements des échantillons qui ont été envoyés au laboratoire de l'Institut National de Recherche Biomédicale, INRB, pour des analyses. Les résultats à ce jour sont encore négatifs pour les 2 cas. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est quoi à la population, parce que ce n'est pas parce que c'est négatif qu'on va croiser les bras, comme nous avons dit, il y a la surveillance que nous devons renforcer, communiquer à la population de cette maladie et des différentes mesures à prendre pour éviter justement cette infection.
Vu les risques élevés des contaminations de cette maladie, comment la population doit se comporter ou quelles sont des mesures préventives contre cette maladie?
Voilà, donc comme toute maladie virale, le traitement efficace de mpox n'est pas là. C'est comme ça qu'il faut vraiment développer la prévention. Alors, on peut prévenir cette infection par des moyens hygiéniques tout à fait simples. Je pense que nous avons vécu beaucoup de cas de maladies virales, notamment le MVE, maladie à Ebola, le COVID-19. Donc, avec ça, la discipline de se laver les mains, il faut que la population se donne régulièrement à tout contact, à toute manipulation des objets suspects, des gibiers suspects. Il faut éviter de manger, par exemple, de la viande provenant d'un animal mort qu'on a ramassé, il faut éviter. Il faut éviter le contact avec une personne qui est suspecte d'une maladie virale comme le mpox. Donc il faut éviter ces contacts-là. Il faut des pratiques culinaires aussi pour bien préparer, cuire correctement la viande. Et quand on dit qu'il faut se laver les mains, il faut le faire correctement, c'est-à-dire en utilisant du savon ou soit du cendre.
Marcel Lola, je vous remercie.
Et merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous avez donnée pour atteindre la communauté à travers votre canal de communication.
Voilà, c'était là notre invité, le chef de division provinciale de la santé en Ituri. Il s'entretenait avec Martial Kizabiamungu. Par ici, prend fin ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta, supervision de Alain Rongo-Chinge, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci d'avoir été des nôtres.